Bonjour à tous, vous écoutez les Pipelettes.
Au micro, Miyako, Louise et moi Laure. Aujourd'hui, nous allons vous raconter trois faits méconnus qui se sont déroulés un 7 mars.
Miyako nous dira tout sur Maurice Ravel, né le 7 mars 1875. Laure nous parlera d'Aristide Briand, célèbre homme politique qui s'est éteint le 7 mars 1932. Et je finirai par vous faire visiter le musée de Madame Tussaud de Londres.
Très beau programme. Les Pipelettes, c'est tout de suite.
C'est Miyako qui débute avec Maurice Ravel.
Comme Louise l'a dit, aujourd'hui je vous parlerai de Maurice Ravel, l'un des compositeurs les plus célèbres du XXe siècle. Né un 7 mars 1875 dans le Pays basque français, Ravel a passé la majeure partie de sa vie en France. Il était connu pour son style musical impressionniste et sa capacité de créer des morceaux complexes et riches. Né d'une mère pianiste, Ravel a commencé sa formation musicale très tôt. À l'âge de 14 ans, il est admis au Conservatoire de Paris, où il étudie avec de grands compositeurs. Il a rapidement montré des talents exceptionnels en composition et en piano. Mais il a été rejeté pour le prestigieux prix de Rome en raison de son style musical trop moderne. Malgré cela, Ravel a continué à écrire de la musique et à se faire un nom dans cet univers. Ainsi, au cours de sa carrière, il a travaillé comme pianiste de concert et a été très demandé comme professeur de composition.
Et quand est-ce qu'il a commencé à être connu ?
Eh bien, il a connu son premier grand succès en 1905 avec la pièce pour piano « Jeu d'eau », puis suivi de plusieurs autres compositions pour piano dont « Miroir » et « Gaspard de la nuit ». Il a également composé des œuvres orchestrales telles que « Daphnis et Chloé » et « Pavane pour une infante défunte ». En voici un extrait. Maurice Ravel a aussi pu assister à de nombreux changements dans le monde de la musique, notamment l'apparition du jazz et de la musique populaire. Les années 20 sont sûrement les meilleures années de sa carrière et c'est à ce moment-là qu'il commence à voyager à l'étranger pour jouer et diriger ses œuvres. Cependant, sa santé a commencé à se détériorer à cette époque. Et il a souffert d'une série de problèmes neurologiques et musculaires qui ont affecté sa capacité de composer et de jouer au piano. Ceci l'a finalement conduit à sa mort. En 1937. Malgré une carrière relativement courte, il a laissé derrière lui un héritage musical riche qui continue d'être apprécié et célébré dans le monde entier. Sa musique reste une source d'inspiration pour de nombreux musiciens et compositeurs d'aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse avec Le Boléro, une de ses compositions les plus connues. Thank you.
C'est au tour de Laure de nous raconter l'histoire d'Aristide Briand.
Que reste-t-il d'Aristide Briand en dehors des dizaines de rues et de places à son nom dans des communes françaises et du monument placé sur les grilles du Quai d'Orsay? Pour beaucoup d'entre nous, rien. Pour quelques-uns, l'image exacte d'un orateur hors pair et d'un pacifiste idéaliste, ce qui est incomplet. En réalité, l'œuvre d'Aristide Briand, 20 fois ministre et 11 fois président du Conseil, est vaste et comprend aussi bien la première loi sur les retraites en France, votée en 1910, que l'initiative de la loi sur les 3 ans de service militaire en 1913. Voilà donc pourquoi je vais vous présenter la vie d'Aristide Briand. Aristide Briand est né en 1862 et mort en 1932. C'est en 1902 qu'il est élu député de la Loire et il le restera jusqu'à sa mort. Mais dès 1905, rétif à la discipline de parti et à la mouvance socialiste animée par Jules Guesde, il se revendique socialiste indépendant et s'éloigne de la jeune SFIO. Suite au hasard d'un tirage au sort, il entre dans la commission parlementaire en charge du projet de loi sur la séparation des églises et de l'État. Rapporteur de loi, il s'illustre par son éloquence charmeuse et son sens du compromis et réussit à la faire adopter par la Chambre des députés. Il la fait également appliquer comme ministre de l'Instruction publique et des cultes dans différents ministères. C'est le début d'une carrière au sommet. Pendant la Grande Guerre, il dirige le gouvernement du 29 octobre 1915 au 12 décembre 1916. Après la guerre, il appuie la Société des Nations, SDN, et s'efforce de bâtir une paix durable avec l'Allemagne dans l'esprit de Genève. Avec son homologue allemand Gustav Stresemann, il convainc les ministres européens des Affaires étrangères de signer le pacte de Locarno le 16 octobre 1925. Et le 8 septembre 1926, c'est avec une emphase magnifique qu'Aristide Briand célèbre l'entrée de l'Allemagne à la SDN. Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons, place à la conciliation, à l'arbitrage et à la paix. Ses succès lui vaudront le prix Nobel de la paix à lui et son homologue. Le 27 août 1928, il récidive en organisant à Paris la signature du pacte Briand-Kellogg en vue de mettre la guerre hors la loi. Dans une belle envolée, Briand appelle à la création des États-Unis d'Europe. Mais le crash de 1929 va ruiner ses espérances. le 14 septembre 1930, il est à la tribune de la Société des Nations, à Genève, quand un conseiller lui souffle à l'oreille qu'une centaine de députés nazis viennent d'être élus au Reichstag. Comprenant que c'est la ruine de ses espérances, il murmure « Tout est foutu ». Et il s'éteint assez tôt pour ne pas assister à l'apocalypse dans la nuit du 6 ou 7 mars 1932. On se souvient ainsi de lui comme un homme d'État qui s'est battu pour deux grands objectifs. La séparation de l'Église et de l'État et la première tentative de réconciliation franco-allemande. Il a cherché toute sa vie à défendre ses idéaux et pour faire régner la paix dans des sociétés en crise. Et en 1932, l'année de son envol, Chostakovitch composait sa musique de scène pour Hamlet. Et en voici un extrait. Et finissons par Louise qui va nous parler du musée de Madame Tussaud.
Il y a 25 ans, en 1998, la reine Elisabeth II anoblissait la star de rock Elton John et faisait de lui Sir Elton John. Mais saviez-vous qu'un 3 mars 1976, encore 22 ans plus tôt, Elton était déjà, pour la première fois, fait de cire ? Eh oui ! On fête aujourd'hui l'entrée de Rocketman au musée de cire de Madame Tussaud à Londres. C'est seulement la deuxième star de la chanson à entrer dans ce musée, après les inévitables Beatles, bien sûr. L'exposition était déjà un lieu mythique puisqu'elle fêtait alors ses 174 ans d'existence depuis sa création par Madame Tussaud, née Marie Grossholz, pour exposer ses masques de cire, dont le premier qu'elle créa en 1777 à 16 ans, celui de François Voltaire lui-même. Cette première statue d'Elton portait, comme le veut la tradition, un vêtement ayant appartenu à l'artiste, une magnifique paire de bottes à talons hauts en paillettes argentées. Le chanteur un peu perché de Crocodile Rock, I'm Still Standing, Your Song or Tiny Dancer était déjà célèbre pour ses costumes extravagants, ses lunettes incroyables et ses excès de drogue et d'alcool. Il se rendra ensuite également célèbre pour sa grande amitié avec la princesse Diana et son immense générosité pour toutes les bonnes causes et en particulier la prévention et la lutte contre le sida. Tout en étant toujours réputé pour organiser les plus sélectes et extravagantes after-soirées des Oscars. Ces nombreuses statues de cire, maintenant présentes dans tous les Madame Tussaud de New York à Amsterdam, ne pourront jamais rivaliser avec le vrai personnage, même pas la version en chocolat réalisée en 2005 et qui, paraît-il, était particulièrement croquante, craquante.
Les filles, il faut y aller.
Et oui, c'est déjà la fin de notre émission, mais ne vous inquiétez pas, car nous serons bientôt de retour pour des faits passés en surprise.
En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site www.radioalb.net. Laissez des commentaires, abonnez-vous et téléchargez notre programme.
On vous laisse avec Lovers Rock par TV Girls.
Au revoir et bonne semaine.
Bye bye. I'm not afraid to die.